Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas pu saluer. C'est un plaisir de me retrouver avec vous encore ce matin. Et pour la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui reçoivent les mails, des annonces ou d'autres, vous avez certainement eu il y a une semaine et demie à peu près un questionnaire sur comment vous voyez l'Église et puis comment vous aimeriez aussi un petit peu voir l'Église. Et du coup, j'ai pensé aussi pour le message ce matin, vous parler de c'est quoi l'Église. Et je vous invite donc d'ouvrir votre Bible dans le premier évangile, dans le premier livre du Nouveau Testament, en Matthieu chapitre 16, les versets 18 et 19. Matthieu 16, versets 18 et 19. Et moi, donc c'est Jésus hein, qui parle, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras, liera, du verbe lier, sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, qu'est-ce que l'Église? Est-ce que c'est un rassemblement de ceux qui croient en Dieu? Quelque part, l'Église, ce serait l'équivalent un peu de, on se fait une bonne bouffe, je sais pas comment on dit pas comme ça, hein, mais ensemble, ou plutôt un bon repas en famille, ou entre amis, comme on peut avoir l'habitude, surtout en France, on reste des heures à manger et discuter. Alors, cette image n'est pas trop mauvaise, puisqu'on voit bien Jésus aussi, qui aime les fêtes, qui aime les bons repas, on voit avec un bon vin aussi, quand il transforme l'eau en vin, un vin qui est de bonne qualité, et c'est la fête. Puis il utilise aussi cette image dans une parabole aussi, cette image de festin, comme quand il parle du royaume de Dieu à venir. Le terme église dans ce texte est le premier terme qu'on retrouve dans la Bible, le premier emploi du terme église. Et pour cause, l'église, à ce moment-là, n'existe pas en tant que telle encore. Elle est en devenir. Elle apparaîtra, l'église, au moment où Jésus aura accompli sa mission sur terre et sera retourné auprès du Père, après l'ascension de Dieu, de Jésus. Alors, puisque c'est la première fois que on voit ce mot Église apparaître, il est bien de savoir, mais de quoi nous parlons? Bien, Église, donc c'est la traduction ecclésia, c'est le mot en grec, et c'est un verbe qui signifie appeler hors de. Le ek. Ecclésia, ex veut dire en dehors, et ecclésia, c'est appelé. Donc appelé hors d'eux. Église appelée hors d'eux. C'est ce qui veut dire étymologiquement le mot. Ce qui nous fait rappeler l'histoire du peuple de Dieu, comment s'est conduit le peuple de Dieu depuis la création du monde. On a Adam et Ève, après avoir péché, sont appelés à quitter le jardin d'Éden. À cause du péché, ils quittent le jardin d'Éden, sont pas vraiment appelés, ils sont obligés, mais bon, appelés à aller hors du jardin d'Éden, là, pour ce coup. On a Noé et sa famille qui ont dû se mettre à part. C'est un peu aussi cette signification du mot, voilà, appelé hors d'eux. C'est aussi être, quelque part, être à part dans un bateau pour ne pas subir la mort à cause du péché des hommes. Noé a appelé d'autres personnes hors de cette terre pour qu'ils ne puissent pas se noyer lors du déluge. Appelé à sortir hors de la mort à venir. Appelé à venir hors du péché. On a, par la suite, on ne va pas faire toute l'histoire, hein, mais quelques petits détails. On a Abraham. D'abord, il s'appelle Abraham, qui est bien tranquille là où il est. Et Dieu qui lui demande de quitter son pays, sa famille. Son pays, appelé hors de son pays, de sa famille. Tout cela pour être l'ancêtre d'une multitude. Lui aussi, appelé hors d'eux. On a Joseph, qui était très bien dans sa famille, une famille de croyantes, de croyants, des fervents croyants même, mais qui est appelé, par la force des choses, mais hors de son territoire, mais pour être une bénédiction ailleurs. Puis bien sûr, il y a cette histoire, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu du temps de Moïse qui a été appelé hors de l'Égypte, qui a passé 40 ans dans le désert, appelé hors de l'Égypte, tout cela pour rendre un culte à Dieu. Là, vous voyez, hein, le rapprochement, on commence à se rapprocher, et bien, voilà. Qu'est-ce que l'Église? Mais ça pose une question. Qui sont les gens qui devraient être à l'Église? Qui sommes-nous? Et qui devrait être ici? Et cette question aussi, et pourtant, qui sont là aussi? Qui sont réellement ces gens qui vont à l'église ici? Combien de personnes appelées hors d'eux, combien de personnes du dehors vont à l'église? Et pourtant, quand on a la création de l'église, on peut lire en Actes chapitre 2, verset 47, il est dit: louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, verset 47. Ce sont des personnes qui étaient hors d'eux. Et on voit à la création de l'Église, eh bien, le Seigneur ajoute chaque jour des nouvelles personnes appelées hors d'eux. Le problème, c'est que il me semble que la réalité de comment nous voyons l'Église est bien souvent différente de cette idée de appeler hors d'eux. Dans ce passage, d'ailleurs, on parle de construction. C'est une image qui nous plaît bien, qui nous touche, parce que on se dit, ben voilà, l'entretien d'un beau bâtiment pour la grandeur de Dieu le dimanche, quand on fait le culte, on peut, voilà, construire un bel édifice. Mais oui, il y a cette image de pierre, d'édifice qu'on construit dans ce passage. Et quand on dit bâtir une église, on a cette image aussi, probablement, d'un monument, de ces beaux édifices aussi. Un bâtiment qu'on voudrait construire, qui va durer 800 ans, comme on peut trouver dans une belle cathédrale. Mais est-ce que dans ce passage, quand Jésus parle de pierre, est-ce qu'il veut parler des pierres qui sont figées, comme on le trouve dans un bâtiment. Est-ce que c'est cette image d'être figé que Jésus a vraiment voulu laisser? Alors l'image a un autre sens, fait surgir l'idée de stabilité. Et je crois que ça, Jésus a vraiment voulu le montrer dans cet exemple, dans cette image de stabilité, de durée aussi, du coup. Ça fait quand même 2000 ans que l'Église existe. Mais on ne voit pas vraiment le côté figé, je trouve, dans l'idée de l'Église. En tout cas, quand on voit l'exemple de Jésus, on voit que cette certaine liturgie que les Juifs pouvaient avoir à l'époque que n'est pas vraiment comme Jésus le fait. Il casse beaucoup les codes, il dénonce beaucoup de gens, des Juifs même, des gens du peuple de Dieu. Puis il se déplace beaucoup, il ne reste pas figé, comme on peut avoir cette image de bâtiment. Il se déplace, il va à la rencontre des uns des autres, il va là où personne ne va. Je le répète très souvent, les lépreux, les femmes dans la rue, les mendiants. Tout cela, les Juifs ne le faisaient pas à cette époque. Est-ce qu'aujourd'hui on le fait? Donc il y a effectivement cette image d'une pierre qui peut nous faire penser plutôt à la stabilité, à quelque chose de figé. Et cette stabilité fait partie de la réalité de l'Église de Dieu. Mais dans ce texte, l'image qui ressort est quelque chose d'une œuvre qui doit aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas quelque chose de passif que Jésus demande. C'est actif. On est acteur. Dieu dit « Je bâtirai ». Mais avec toi, pierre. Une pierre fondatrice. Une première pierre, mais appelée à ce qu'il y ait plein d'autres, bien sûr, pour pouvoir bâtir cet édifice. Lors le verset 19, il y a un autre aspect de l'Église qui pose question également. Il est dit dans ce verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, est-ce que l'Église serait donc plein de personnes, mais avec également des différences niveau hiérarchique, de statut, de rôle, d'importance? Parce que on voit que Pierre, dans ce texte, le disciple de Jésus, serait une pierre fondatrice. Est-ce qu'il est cette pierre d'une plus grande importance que les autres? Est-ce qu'il est donc le pape de tous les croyants, avec cette image qui nous est donnée dans ces versets? Dans un autre passage, dans une lettre justement de Pierre lui-même, il va parler de Jésus comme pierre angulaire. On voit donc que Pierre lui-même ne se considère pas comme la pierre principale. Alors, est-ce qu'il fait là une fausse modestie? En fait, en regardant notre passage, et c'est là où parfois la traduction du grec au français n'est pas toujours évidente, on voit que littéralement, le verset 18, si on le traduisait vraiment avec les bons mots, on dirait plutôt « tu es un caillou ». Par une petite pierre, donc, pierre, mais une petite pierre, et sur ce roc, rocher, donc une grosse pierre, je bâtirai mon église. On voit donc que là, il y a un jeu de mots qui est fait, en fait, dans ce verset. Donc, Pierre est effectivement le fondateur de l'église, dans le sens qu'il est celui qui va être le premier dans l'Église, mais il n'est pas une pierre plus grande qu'un autre. Parce que c'est Jésus, comme il le dit lui-même plus tard, qui est la pierre angulaire. Dans Éphésiens 2, verset 20, il est dit que l'Église est bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Il dit que Jésus dit aussi « J'édifierai mon Église », ce qui signifie qu'il va lui-même bâtir l'Église. Et c'est en cela qu'elle sera invulnérable et que le diable ne réussira pas à faire disparaître l'Église de la terre, bien qu'il essaye à maintes et maintes reprises. L'image de l'Église est donc celle de la construction d'un bâtiment. Et peut-être juste le danger, c'est de penser du coup à une église comme notre local ici, notre communauté, cette communauté restreinte, où on va dire que voilà, on a une église de 20 personnes, on a une église de 50, on a une église de 150 personnes, sans voir la dimension bien plus grande qu'est l'église. Chacun, nous sommes également une petite pierre pour l'édifice. C'est Christ qui bâtit. Et c'est ce qui fait notre communion ensemble en tant que chrétiens. Et cette question, du coup aussi, comment devons-nous penser l'Église ? Est-ce que nous devons penser l'Église comme cette Église locale, avec son bâtiment, effectivement, où nous nous réunissons, ou est-ce que nous devons penser à une Église une, universelle, et qui, quelque part, on parle parfois d'Église un peu invisible, dans le sens qu'on ne voit pas la matière, à part les gens, on ne voit pas l'ensemble de l'Église. Et ce qui fait que peut-être parfois, quand nous pensons à Église universelle, nous avons une idée un peu abstraite de ce qu'est l'Église. On ne voit pas quelque chose de concret. Qu'est-ce que c'est l'Église universelle ? Mais je vais vous donner un exemple de cette dimension universelle de l'Église. J'étais dans d'autres églises locales. Et j'étais, il y a plusieurs années, dans une église locale à Tours. Et j'ai été appelé hors d'eux à un moment donné, justement. J'ai été appelé hors d'eux pour me former au ministère pastoral. Et l'église locale de Tours a pris cela à cœur, a prié pour moi et m'a quelque part envoyé. J'étais appelé hors d'eux et il m'a envoyé hors d'eux. Pas pour me chasser, hein, mais pour me soutenir pour cette formation dans un ministère. Et donc, cette église locale, pendant plus de 5 ans, m'a soutenu par la prière et continue encore à me soutenir dans la prière. Et également financièrement, pour pouvoir financer cette formation, ces 5 ans de préparation au ministère. Et là, vous voyez cette dimension qui est universelle, mais qui prend une forme visible de l'Église universelle. L'Église n'a plus de frontières. Cette église locale de Tours a été capable d'envoyer des personnes pour aller ailleurs que le local même. Aller dans une autre ville, et puis parfois même dans d'autres pays, parfois à l'autre bout de la terre. Mais ça prend quelque chose de concret, parce que la prière que l'Église locale à Tours a pu faire, a pu porter des fruits. J'ai pu voir aussi cette forme au niveau matériel également qui a énormément aidé évidemment pour pouvoir me préparer au ministère sans avoir pendant ces 5 ans une inquiétude de ce que je vais manger demain. Mais avoir la tête disposée pour pouvoir me former. Et j'aimerais, durant les minutes qui nous restent encore, poser quelques questions. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette église locale que nous formons ici. Que, voilà, des fois, on ne sait pas trop entre la réalité locale et la réalité universelle de l'Église. Est-ce que nous arrivons à voir cette dimension plus grande de l'Église que simplement nous qui nous trouvons ici? Je ne sais pas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont engagés dans différents ministères, ministères dans la prison, ministères au niveau des femmes dans la rue, le ministère pour d'aide pour les couples ou pour des personnes dans des difficultés. Ça, c'est une dimension aussi plus grande que notre local. Mais est-ce que nous tous, nous arrivons à percevoir cette dimension que nous devons, nous sommes appelés hors d'eux. Nous sommes appelés à emmener des personnes à Christ. Pas emmener des personnes forcément dans notre local, mais emmener des personnes au Christ, tout simplement. Je vous laisse réfléchir à cela. Qu'est-ce que nous pouvons faire, justement, pour percevoir cette dimension de l'Église plus grande que simplement notre local. Est-ce que cette dimension est abstraite? Une dimension abstraite, je ne sais plus comment on dit. Est-ce que c'est abstrait? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de concret dans ce que dans les différents ministères que Dieu nous a appelés à avoir. Puis, une troisième question, c'est est-ce que, ici, où nous sommes là, dans notre église locale, est-ce que l'église se préoccupe plutôt du royaume de Dieu ou simplement de notre propre groupe? Vous entendez bien quand je dis notre propre groupe, c'est que on est bien ensemble, c'est comme j'ai dit au début, c'est comme un bon repas, un bon festin qu'on a ensemble, mais sans qu'il y a cette parabole qui rentre en nous, cette parabole qui nous invite à aller dans les recoins des rues pour inviter les personnes qui se trouvent dans Nantes, par exemple. Les personnes qui se retrouvent dans les recoins pour les inviter à ce festin qui nous est réservé pour le royaume de Dieu. Est-ce que nous nous préoccupons plutôt du royaume de Dieu ou est-ce que c'est plutôt notre propre groupe que nous nous préoccupons? J'ai parlé de l'Église appelé hors d'eux. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette image, d'une église plutôt qui bouge en fait, d'une église qui serait en fait un peu comme une roulotte, comme une caravane. ou peut-être même un food truck. Puisqu'on a parlé d'un bon festin, bon, c'est pas la même chose, hein. On a moins cette dimension de festin avec un food truck. Mais ce que j'aime bien avec cette image aussi, c'est d'être au cœur. Le food truck, il est là, au bon endroit, là où il peut avoir vraiment les personnes. Est-ce qu'on est cette église qui est un peu comme ce food truck, qui apporte cette nourriture là où il faut ? Plutôt que cette image d'une belle cathédrale qui reste figée des même milliers d'années, si on veut, avec parfois il faut mettre des échafaudages, il faut les repeindre et tout cela, où on perd finalement son temps, bon, à cela. Combien de temps, des fois, on peut passer de temps à se dire, mais il faudrait pas qu'on prenne la Sainte-Seine comme cela, ou il faudrait qu'on mette, bon, on n'a pas d'estrade ici, il faudrait qu'on mette l'estrade un peu plus bas, ou il faudrait que le micro il soit moins fort, la sono est beaucoup trop forte. Alors que notre mission est tout simplement d'être là où personne n'est, là où Dieu nous appelle. Être ce food truck qui sait où se mettre pour avoir des clients. Alors nous, on n'appelle pas à avoir des clients. Mais là, il s'agit de la vie. Il s'agit de savoir est-ce que il y aura plus de personnes qui vont avoir cette vie. C'est une vie qui ne se termine pas ici sur terre, mais une vie qui est éternelle, tout simplement. Voilà, je voulais vous laisser ces quelques pensées. Et puisqu'on est dans la réflexion, voilà, de quel est l'avenir aussi de l'Église avec ce questionnaire aussi. Je vous appelle aussi à continuer à répondre. Il y a eu quelques réponses déjà, mais qui sont très intéressantes. Mais voilà, que nous puissions avoir une vision des projets dans lequel nous sommes appelés hors d'eux. Amen. Père éternel,